Vous la voyez dans les rues, la nuit. Vous la voyez à la porte même de l'église. Vous ne la trouvez pas seulement dans les affreux bas-fonds qui lui sont réservés dans les grandes villes, mais elle se presse toujours plus avant dans les rues commerçantes et les quartiers bourgeois de nos cités. Hélas, vous la trouverez même quelquefois, si vous regardez attentivement, dans des intérieurs présumés respectables, des hommes et des femmes au cœur brisé en apporteront la confession jusqu'à vos oreilles. La condition morale du monde de nos jours est répugnante, écœurante, épouvantable. Nous avons besoin d'un réveil profond, étendu, universel dans la puissance du Saint-Esprit. Ou bien nous aurons un réveil universel, ou bien nous verrons la dissolution de l'Église, du foyer, de l'État. Un réveil, vie nouvelle venue de Dieu, est le remède, l'unique remède. Cela seul refoulera la terrible marée de l'immoralité et de l'incrédulité. De simples discussions n'y peuvent rien, mais un vent soufflant du ciel, une nouvelle effusion du Saint-Esprit, un vrai réveil envoyé par Dieu le fera. L'incrédulité, la haute critique, la science chrétienne, le spiritisme, l'universalisme, tout cela s'effondrera devant l'effusion de l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas les arguments et les discussions qui ont relégué dans les limbes de l'oubli Thomas Paine, Voltaire, Volney et autres fameux docteurs et sa crédulité de jadis, c'est le souffle de Dieu, et nous avons besoin d'un nouveau souffle de Dieu pour envoyer les Willozon, Cunin et Graffley y rejoindre avec les perroquets qu'ils ont formés pour occuper nos chairs. Je crois qu'il vient, ce souffle de Dieu. Le grand besoin du jour, c'est un réveil universel. Le besoin est évident. On ne peut, en toute honnêteté, diverger d'opinion sur ce point. Que ferons-nous donc? Prions. Reprenons la prière du psalmiste « Rends-nous à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ». Reprenons la prière d'Ézéchiel, Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Écoutez, j'entends un bruit. Regardez, il se fait un mouvement. Il me semble déjà sentir le souffle sur ma joue. Il me semble déjà voir l'armée nombreuse se dresser vivante sur ses pieds. N'allons-nous pas prier, 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 prier jusqu'à ce que l'Esprit vienne et que Dieu rende son peuple à la vie? Le mot anglais que nous traduisons par l'expression courante de réveil et ravival qui signifie littéralement retour à la vie. Comment prier? 12 rôles de la prière, avant et pendant les réveils. On serait bien loin de traiter complètement le sujet « comment prier » si l'on ne considérait le rôle de la prière au cours des réveils. Le premier grand réveil de l'histoire chrétienne eut pour origine, du côté des hommes, une réunion de prière de 10 jours. Nous lisons au sujet de cette poignée de disciples que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Acte 1, 14, nous lisons le résultat de cette réunion de prière dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 4. Plus loin, dans le même chapitre, nous lisons que en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, 41. Ce réveil s'avéra authentique et durable. Les nouveaux convertis persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 42 et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Tout vrai réveil depuis lors jusqu'à ce jour a eu pour origine terrestre la prière? Le grand réveil du temps de Jonathan Edwards au XVIIIe siècle commença par son fameux appel à la prière. La merveilleuse œuvre de grâce parmi les Indiens par le ministère de Brenner eut pour point de départ les jours et les nuits que Brenner passa devant Dieu en prière pour être revêtu de la puissance d'en haut dans cette œuvre. Ce fut un bien remarquable et vaste déploiement de la puissance revivifiante de Dieu que celui qui éclata à Rochester, New York en 1830 par le ministère de Charles G. Finney, non seulement il s'étendit d'un bout à l'autre de l'État, mais finalement gagna aussi la Grande-Bretagne. Finney lui-même attribuait la puissance de cette œuvre à l'esprit de prière qui régnait alors. C'est avec ces paroles qu'il le décrit dans son autobiographie. Étant en route pour Rochester, alors que nous traversions un village à quelques 30 000 à l'est de Rochester, un frère dans le ministère, que je connaissais, m'ayant aperçu sur le bateau fluvial, sauta à bord pour converser un moment avec moi. Il voulait seulement faire un bout de chemin et s'en retourner. Toutefois, il fut intéressé par la conversation et apprenant où j'allais, il décida de continuer et de m'accompagner à Rochester. Nous étions dans cette ville depuis quelques jours, quand ce frère fut saisi d'une si profonde conviction de péché, qu'à un moment donné, alors que nous passions dans la rue, il ne put s'empêcher d'éclater en sanglots. Le Seigneur lui donna un puissant esprit de prière et son cœur fut brisé. Comme nous prions ensemble, lui et moi, je fus frappé de sa foi au sujet de ce que le Seigneur allait accomplir là. Je me rappelle qu'il disait « Seigneur, je ne sais pas comment il se fait, mais j'ai comme l'assurance que tu vas faire une grande œuvre dans cette ville. » L'esprit de prière fut puissamment répandu à tel point que quelques personnes se tenaient à l'écart des cultes publics pour prier, étant incapables de contenir leur émotion pendant la prédication. Ici, je dois introduire le nom d'un homme que j'aurai fréquemment l'occasion de mentionner, monsieur Abel Clary. C'était le fils d'un très excellent homme, ancien de l'église dans laquelle je me suis converti. Il fut converti au même réveil que moi. Il était habilité à prêcher, mais son esprit de prière était tel, il était tellement chargé du fardeau des âmes, qu'il ne lui était pas possible de prêcher beaucoup, la totalité de son temps et de ses forces étant vouée à la prière. Ce poids sur son cœur était souvent si lourd qu'il ne pouvait se tenir debout mais qu'il se tordait et gémissait en agonie. J'étais assez intime avec lui et connaissais quelque peu le merveilleux esprit de prière qui était en lui. C'était un homme très silencieux, comme presque tous ceux qui ont ce puissant esprit de prière. Voici comment j'appris qu'il était à Rochester, un monsieur qui habitait à environ 1 mile à l'ouest de la ville vint me rendre visite un jour et me demanda si je connaissais un certain monsieur Abel Clary, pasteur. Je lui répondis que je le connaissais bien. « Eh bien, dit-il, il est chez moi depuis quelque temps, mais je ne sais que penser de lui. Je ne l'ai vu à aucune de nos réunions, remarquai-je. Non, répondit-il, il dit qu'il ne peut aller aux réunions. Il prie presque tout le temps, jour et nuit, et dans une telle agonie d'esprit, que je ne sais ce que je puis y faire. Parfois, il ne peut même pas se tenir sur les genoux, mais j'y prostrai sur le plancher et gémis et pris d'une manière qui m'étonne vraiment. Je dis à ce frère, je comprends cela, mais je vous en prie, demeurez en paix. Tout cela s'arrangera, sa prière aura le dessus. Je connaissais à l'époque un nombre considérable d'hommes qui étaient éprouvés de la même façon. Le diacre P. de Camden dans le comté d'Oneida, le diacre T. de Rodemont dans le comté de Jefferson, le diacre B. d'Adam dans le même comté, ce monsieur Clary et beaucoup d'autres hommes, ainsi qu'un grand nombre de femmes, participaient du même esprit et passaient une grande partie de leur temps dans la prière. Le père Nash, comme nous l'appelions, qui vint m'aider dans plusieurs de mes champs de travail, était encore un de ces hommes qui avait ce puissant esprit de prière triomphante. Ce monsieur Clary resta à Rochester tout le temps que j'y fus et ne quitta qu'après moi. Il ne parut jamais en public, pour autant que je sache, mais se donna entièrement à la prière. Un jour, à Auburn, c'était je pense la seconde fois que nous y célébrions le jour du repos, je notai parmi l'assemblée le visage solennel de monsieur Clary. Il semblait qu'il fût accablé par le poids d'une agonie de prière. Étant, comme je l'ai déjà dit, assez intime, avec lui et connaissant le grand esprit de prière, dont Dieu lui avait fait don, je fus très heureux de le voir là. Il était assis dans le chœur, avec son frère le docteur, qui faisait aussi profession de religion mais qui, je pense, n'avait aucune expérience de la grande puissance qu'avait son frère Abel auprès de Dieu. pendant une interruption, aussitôt que je fus descendu de la chaire, « Monsieur ?» Clary et son frère vinrent à ma rencontre au pied même des marches et le docteur m'invita à aller chez lui passer ce moment et prendre une légère collation, ce que j'acceptai. Arrivé chez lui, nous fûmes bientôt appelés à table. Nous nous y assîmes et le docteur Clary, se tournant vers son frère, dit « Frère Abel, voulez-vous demander la bénédiction ?» Frère Abel inclina la tête et commença à haute voix. Il avait à peine prononcé une phrase ou deux qu'il s'effondra brusquement, se retira soudain de la table et s'enfuit vers sa chambre. Le docteur, pensant qu'il s'était subitement trouvé indisposé, se leva et le suivit. Au bout de quelques instants, il redescendit et dit « Monsieur, Finet, mon frère Abel désire vous voir. Qu'est-ce qu'il a ? Je ne sais pas, mais il dit que vous le savez. Il paraît être dans une grande affliction, mais je pense que c'est son état d'esprit. Je compris à l'instant et montai à sa chambre. Il était allongé gémissant sur son lit, l'esprit intercédant pour lui et en lui par des soupirs inexprimables. J'étais à peine entré dans la pièce, qu'il parvint à dire « Priez, frère Finet ». Je m'agenouillais et l'assistais dans la prière, conduisant son âme dans l'intercession pour la conversion des pécheurs. Je continuai à prier jusqu'à ce que son affliction fût apaisée, puis je retournai à table. Je compris que c'était là la voix de Dieu. Je vis que l'esprit de prière était sur lui, sentis son influence sur moi-même et fus assuré que l'œuvre avancerait puissamment. Il en fut bien ainsi. Le pasteur me dit plus tard avoir constaté que pendant les 6 semaines que j'avais passé là, 500 âmes avaient été converties. Monsieur Finet, dans ses discours sur les réveils, parle d'autres remarquables réveils en réponse aux prières du peuple de Dieu. Il dit quelque part un pasteur me parla d'un réveil parmi son troupeau qui commençait dans l'église par le zèle et la consécration d'une femme. Elle devint anxieuse au sujet des pécheurs et se mit à prier pour eux. Plus elle priait et plus son angoisse augmentait, finalement elle vint trouver son pasteur, parla avec lui et lui demanda de faire une réunion pour âme anxieuse, car elle sentait qu'il en fallait une. Le pasteur reconduisit car il ne sentait rien de semblable. La semaine suivante, elle revint et le supplia de faire une réunion pour âme anxieuse. Elle savait qu'il y aurait des gens pour y assister car elle sentait que Dieu allait répandre son esprit. Il reconduisit à nouveau. Finalement, elle lui dit « Si vous ne faites pas une réunion, pour âme anxieuse, j'en mourrai car il va certainement y avoir un réveil. » Au jour du repos suivant, il annonça une réunion et dit que s'il y avait quelqu'un qui désira s'entretenir avec lui du salut de son âme, il le rencontrerait ce soir-là. Il n'avait connaissance d'aucun cas, mais quand il se rendit à l'endroit convenu, il trouva à sa stupéfaction un grand nombre de personnes anxieuses venues l'interroger. Ailleurs encore, il dit le premier rayon de lumière qui luit dans la nuit profonde qui enveloppait les églises du comté d'Oneida à la fin de 1825 vint d'une femme de santé délicate qui, je pense, ne s'était jamais trouvée dans un puissant réveil. Son âme était éprouvée au sujet des pécheurs. Elle était en agonie pour le pays. Elle ne savait ce qui lui arrivait. Mais elle continua à prier toujours davantage jusqu'à ce qu'il lui sembla que son agonie allait détruire son corps. Enfin, elle fut remplie de joie et s'écria « Dieu est venu !» Dieu est venu. On ne peut s'y tromper, l'œuvre est commencée et s'étend sur toute la région. Et effectivement, l'œuvre commença, presque toute sa famille fut convertie et le réveil s'étendit sur toute cette partie du pays. Le grand réveil de 1857 aux États-Unis commença dans la prière et se poursuivit par la prière plus que par aucun autre moyen. Le docteur Quillet, dans un article d'un journal religieux, disait « Il y a quelques années, la plupart des réveils ont d'humbles commencements et le feu s'allume dans quelques cœurs brûlants. Ne méprisons jamais le temps des petits commencements. Pendant toute la durée de mon long ministère, presque chaque œuvre eut une origine semblable. L'une commence dans une réunion convoquée quelques heures, seulement à l'avance dans une maison particulière, une autre dans un groupe réuni par monsieur. Moody pour une étude biblique dans notre salle d'évangélisation, une autre encore, la plus puissante de toutes, fut allumée par une glaciale soirée de janvier au cours d'une réunion de jeunes chrétiens assemblés sous mon toit. Le docteur Spencer, dans ses esquisses pastorales, le livre le plus suggestif que j'ai jamais lu dans ce genre, nous raconte qu'un réveil remarquable jaillit dans son église des prières ferventes d'un pieux vieillard confiné dans sa chambre parce qu'il était infirme. Ce profond chrétien qu'est le docteur Thomas Skinner de l'Union Theological Seminary me fit une fois le récit d'une remarquable rencontre dans son bureau de trois hommes fervents alors qu'il était pasteur de l'église de Arch Street à Philadelphie. Ils lutèrent littéralement dans la prière, purifièrent leur cœur dans la confession de leurs péchés et s'humilièrent devant Dieu. L'un après l'autre, les anciens de l'église vinrent se joindre à eux. La flamme ainsi allumée d'en haut s'étendit à travers l'assemblée entière en l'un des plus puissants réveils que l'on ait jamais vu dans cette ville. Au début du XVIe siècle, il y eut un grand réveil religieux dans l'Ulster, en Irlande. Les terres des chefs rebelles, qui avaient été confisquées par la couronne d'Angleterre, étaient alors occupées par une population de colons qui, pour la plupart, étaient dominés par un sauvage esprit d'aventure. La vraie piété était rare. Sept pasteurs, cinq venus d'Écosse et deux d'Angleterre s'établirent dans ce pays, les premiers étant arrivés en 1613. Un contemporain nous rapporte qu'un de ces pasteurs, nommé Blair, passait de nombreuses journées et de nombreuses nuits dans la prière, seul ou avec d'autres et qu'une grande intimité avec Dieu lui était accordée. James Glanding, homme très pauvre en dons naturels, avait le même état d'esprit quant à la prière? C'est sous la conduite de ce Glanding que le travail commença. Le chroniqueur déclare que c'était un homme qui n'aurait jamais été choisi ni envoyé par un sage conseil de pasteur pour commencer une réforme dans ce pays. Pourtant, ce fut le choix du Seigneur de se servir de lui pour commencer l'admirable œuvre de Dieu que je mentionne à dessein, afin que tous puissent voir combien la gloire appartient au Seigneur seul d'avoir suscité une nation sainte dans ce pays impie. Ce ne fut ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pendant sa prédication à Oldstone, des multitudes d'auditeurs se sentirent saisis d'une grande anxiété et terriblement repris dans leur conscience. Ils se regardaient comme étant tout à la fois perdus et damnés et criaient aux frères, « Que ferons-nous pour être sauvés ?» Ils furent frappés jusqu'à s'évanouir par la puissance de sa parole. En un seul jour, 12 d'entre eux furent emportés au dehors comme morts, et ce n'étaient pas des femmes, mais quelques-uns de ces esprits les plus hardis de la contrée, de ceux qui auparavant ne craignaient point de jeter l'effroi par leur épée dans tout un bourg. J'ai entendu l'un d'eux, continue le chroniqueur, alors puissant gaillard et maintenant chrétien plein de puissance, dire que son but en entrant dans l'église était de s'entendre avec ses compagnons sur la manière d'opérer quelques mauvais coups. Cette œuvre s'étendit à travers tout le pays. Vers l'année 1626, il se tenait chaque mois, à Antrim, une réunion de prière. L'œuvre s'étendit au-delà des limites de Down et d'Antrim aux églises des pays avoisinants. L'intérêt pour les choses religieuses devint si grand qu'on venait de 30 et 40 000 à la ronde pour la communion et s'en retournait sans sentir la fatigue, bien que n'ayant pas dormi depuis le départ. Beaucoup d'entre eux ne mangeaient ni ne buvaient dans l'intervalle et quelques-uns déclaraient cependant qu'ils repartaient plus frais et plus vigoureux tant l'âme était remplie du sentiment de la présence de Dieu. Ce réveil changea complètement le caractère de l'Irlande du Nord. Un autre grand réveil en Irlande en 1859 eut une origine à peu près semblable. Pour beaucoup qui n'étaient pas au courant, il sembla que cette œuvre merveilleuse se produisit inopinément et sans préparation. Mais le révérend William Gibson, président de l'Assemblée générale de l'Église presbytérienne d'Irlande en 1860, raconte, dans son très intéressant et précieux historique de l'œuvre, comment elle fut préparée pendant 2 ans. On s'était fréquemment entretenu à l'Assemblée générale du misérable niveau religieux des églises et du besoin d'un réveil. Il y avait eu des sessions spécialement consacrées à la prière. Finalement, 4 jeunes hommes, qui devinrent les initiateurs de cette grande œuvre, commencèrent à se réunir dans une vieille école des environs de Rely. Vers le printemps de 1858, une œuvre de puissance commença à se manifester, puis elle s'étendit de ville en ville, de comté en comté. Les assemblées devinrent trop grandes pour leurs locaux et les réunions se tinrent en plein air, souvent fréquentées par plusieurs milliers de personnes. Fréquemment aussi, plusieurs centaines de personnes étaient convaincues de pécher en une seule réunion. En quelques endroits, les tribunaux de justice criminelle et les prisons furent fermés faute d'occupation. Il y eut des manifestations extrêmement remarquables de la puissance du Saint-Esprit qui prouvaient clairement que le Saint-Esprit est aussi disposé à agir aujourd'hui qu'au temps apostolique, quand les pasteurs et les chrétiens croient en lui et commencent à préparer la voie dans la prière. Le merveilleux travail de Monsieur Moody en Angleterre, en Écosse et en Irlande, et qui s'étendit plus tard en Amérique, du côté humain, son origine dans la prière. Monsieur Moody ne produisait que peu d'impressions avant que des hommes et des femmes commencent à s'acrier à Dieu. C'est ainsi que sa venue en Angleterre fut en tout point la réponse aux cris importuns adressés à Dieu par une sainte personne rivée à son lit. Tant que l'esprit de prière persista, le réveil subsista dans toute sa force, mais avec le temps on usait de moins en moins de la prière et la puissance de l'œuvre diminua très sensiblement. Il est hors de doute que l'une des causes profondes de ce que beaucoup de nos soi-disant réveils modernes ne sont ni satisfaisants, ni profonds, ni réels, et qu'on les fait dépendre beaucoup plus de procédés humains que de la puissance de Dieu recherchée et obtenue par la prière fervente, persévérante et pleine de foi. Nous vivons en un temps que caractérise l'usage sans cesse accru des procédés humains et l'abandon de la puissance de Dieu. Le cri du jour est travail, activité, labeur, organisation moderne, méthode actuelle, procédé nouveau. Or, le grand besoin du jour est la prière. Le diable a fait un coup de maître en poussant l'Église dans sa généralité à laisser de côté cette arme puissante qu'est la prière. Le diable consent parfaitement à ce que l'Église multiplie les organisations et invente des procédés habiles pour conquérir le monde à Christ si seulement elle accepte de cesser de prier.